passer les annonces aussi. On va revenir vers quelques annonces tout à la fin, si vous le permettez. Donc, restez accrochés, chers amis, même si c'est notre habitude. Normalement, comme disait Samuel, de terminer vers midi, on sera un petit peu plus long. Mais évidemment, ceux qui sont d'un autre arrière-plan se réjouissent de faire l'église pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, on va prendre du temps ensemble. Non, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'être un peu plus court aussi de par la prédication. Nous commençons la semaine prochaine une nouvelle série de prédications dans le livre de 2 Samuel, de la deuxième partie de 2 Samuel. Donc, vous pouvez lire à partir du chapitre 13. Déjà, ça va vous aider par la suite. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer rien que sur un verset. Donc, si vous l'avez le livret sous les yeux, vous allez voir ce verset, verset 19 de Hébreux chapitre 6. J'ai mis les autres versets parce que les autres versets autour vont nous aider à comprendre ce verset-là. C'est un verset que nous l'avons vu lors de nos groupes de quartier dont on a parlé pas mal ce matin. L'année dernière, on a pris toute une année dans le livre des Hébreux. Et ceci est l'un de mes versets préférés de cette année dernière. Et j'aimerais vous exhorter en ce début d'année 2024 à capter cette réalité dont parle ce verset. Donc, verset 19, « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. » Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. Alors, prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Chacun d'entre nous. Oui, notre Père, quelle joie d'entendre que tu es à l'œuvre parmi nous. Quelle joie d'entendre ces témoignages de ta fidélité au-dessus de toute autre chose. Et donne-nous, Seigneur, de comprendre de quoi il s'agit, cette espérance que nous pouvons avoir comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Que ça soit le cas, nous te prions, pour chacun d'entre nous en 2024. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a un épisode à la fin du livre des Actes. Peut-être vous l'avez lu dans le passé. C'est au chapitre 27 du livre des Actes, où Paul, l'apôtre Paul, prisonnier pour sa foi, se trouve dans un bateau pour destination de Rome. Et il y avait avec lui 276 personnes dans le bateau. C'était l'hiver, ils étaient sur la mer Adriatique. Et il y avait une tempête si forte qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Après 14 jours, ballottés dans la mer, ils s'approchent d'une terre inconnue. Et dans la crainte d'échouer sur les récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau. Et il nous dit le récit dans Acte 27, ils ont attendu le jour avec impatience. Ils ont jeté ces bateaux pendant la nuit. Les marins, bien entendu, avaient peur que le bateau s'écroule parce que la terre était proche. Mais après un discours de l'apôtre Paul, tout le monde décide de rester sur le bateau au lieu de quitter le bateau en pensant que le bateau allait s'écrouler. Le bateau tient la nuit, sans rentrer sur des rochers, etc. Et à l'aurore, ils voient une plage et ils arrivent à faire échouer le bateau. Tous arrivent sains et saufs à terre. C'est une belle histoire. Je vous recommande cette histoire en famille pour comprendre à quel point Dieu honore sa parole. Mais une ancre, il y en avait 4 dans cette histoire, bien que petite et capable, même lors d'un orage, d'une grande tempête, de tenir un grand navire, ici avec 276 personnes. Et nous dit le verset que nous venons de lire ensemble, Hébreux 6, 19, c'est possible d'avoir une telle ancre pour notre âme, ferme et solide. Alors peut-être il y a certains ici présents, qui disent, peut-être pas à haute voix, après avoir entendu des témoignages et ainsi de suite, « Mais vous savez, mon âme va bien. Je n'ai pas besoin d'une ancre pour mon âme. Je m'en sors, tu sais. Quelle naïveté. Quelle naïveté de réagir de cette manière. Quand des choses arrivent, nous venons de l'entendre, qui nous dépassent dans la vie, qui révèlent nos limites en tant qu'être humain, qui exposent notre faiblesse, que ce soit décès, vol, violence, guerre, maladie, dépression ou autre, nous ne sommes pas à l'abri de ces réalités. Et c'est justement à ce moment-là que nous nous rendons compte de notre besoin d'une telle ancre. Une ancre révèle son utilité lorsque les choses se tournent mal. Et donc, ne soyons pas naïfs à cet égard, si pour vous, pour le moment, les choses se tournent plutôt bien. Car au moment voulu, une vie construite, rien que sur la réussite matérielle ou professionnelle, ou sur la réussite familiale et amicale, ou sur les amusements ou des exploits recréationnels, sur des désirs relationnels ou même sexuels, une vie construite sur de tels fondements se révélera comme étant incapable de faire face à la dépression ou la déception, face au deuil, face au péché, face même au jugement de Dieu. Et donc, je vous demande encore, est-ce que vous, je vous demande pour la première fois, je pense, est-ce que vous avez une ancre solide pour votre âme? Est-ce que vous avez cette ancre? Et peut-être certains de vous me disent, oui, moi j'en ai une, c'est mon épouse, ou ce sont mes livres, ou c'est mon compte en banque, ou c'est mon chat ou mon chien. J'arrive à lui parler, vous savez. J'aimerais vous dire que vous vous trompez si vous répondez ainsi. Car de telles choses ou de tels animaux sont incapables de nous sauver lorsque nous en avons besoin. Les richesses, selon la Bible, sont incertaines. Et donc, évidemment, là maintenant, vous vous attendez à ce que je vous dise, c'est que l'ancre qu'il nous faut, c'est la foi. Mais là aussi, il faut creuser un tout petit peu, parce que parfois notre conception de ce que c'est la foi n'est pas juste. Que la foi est le garant, nous le disons dans certains milieux, contre le malheur. Et donc, nous voulons remercier Dieu tant que tout va bien. Mais si Dieu, comme il a fait à un moment donné, par exemple, pour Job, rappelons-nous de lui, dans sa providence, permet à ce que nous perdons un proche ou un travail, que nous échouons dans une relation, que nous perdions nos économies lors d'une mauvaise surprise sur le marché financier. Qu'en est-il de l'utilité de ma foi à ce moment-là? Suis-je envahi, même en tant que chrétien, par l'amertume par rapport à Dieu? Si oui, alors ma foi n'est pas l'ancre envisagée ici, dans ce texte. Car la foi n'est pas un garant contre tout malheur et tout échec, nous l'avons entendu. C'est justement le danger de certains versets tirés hors contexte. On cite souvent, j'ai entendu ceci, juste il y a quelques jours, lors d'une prière de quelqu'un, Jérémie 29, verset 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais ce verset, qui promet donc un projet de bénédiction, s'adresse pas directement en premier lieu à nous, mais à des exilés au temps de l'exil à Babylone, pour les encourager que le dernier mot ultime dans le plan de Dieu ne sera pas l'exil. Mais ils doivent quand même passer 70 ans en exil, pas juste 2-3 ans seulement. Ce n'est pas donc une promesse toute faite que tout ira bien à tout moment pour tout croyant. Non, le projet de bénédiction que Dieu a est ultimement une promesse de bénédiction qui se réalise pleinement lors du retour de Jésus-Christ. D'ici là, nous sommes toujours la proie d'amants déchus. Nous avons entendu des exemples de cela ce matin. Et cela demande quoi? De la persévérance pour cette année 2024. On voit plus haut dans ce texte, dans Hébreux 6 que vous avez sur la feuille, que la persévérance est à l'ordre du jour, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, en vous mettant au service des saints et en continuant à les servir. C'est des chrétiens qui étaient bien investis auprès des autres. Mais, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Il faut, vous voyez, le même empressement pour qu'au lieu de devenir nonchalants, nous fassions preuve de foi et de patience pour recevoir l'héritage promis. Être nonchalant, c'est quoi? C'est ne pas voir le besoin de prendre la foi au sérieux, d'être zélé dans notre foi, dans notre amour pour Dieu, pour le nom de Dieu, dans notre amour, dans le service des saints au sein de l'Église de Jésus-Christ. C'est de dire, ben non, tu sais, je fais le minimum et ça suffit, non? Non, car ainsi notre foi ne sera pas éprouvé. Et lors de la tempête, lors du découragement, lors de la difficulté ou de la tentation, on lâchera. Alors je repose la question. Avez-vous, chers amis, une ancre solide pour votre âme? Et voici donc quatre questions. Rapidement, on va répondre à ces quatre questions pour mettre en relief cette ancre. D'abord, vous voyez ça sur le plan que vous avez peut-être sous les yeux. Quelle est cette espérance? Parce que le verset 19 nous dit que c'est cette espérance qu'ils ont comme une ancre solide et ferme. Quelle est donc cette espérance? Verset 12 a déjà précisé. Il s'agit d'une espérance de recevoir l'héritage promis. Un héritage, bien sûr, c'est quelque chose encore à venir. Nous espérons parce que nous ne l'avons pas encore reçu. Et de quoi s'agit-il cette espérance? Montons encore trois versets plus haut, et il dit ceci. Nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend, à savoir le salut. Notre héritage est le salut en Jésus-Christ. Abraham, mentionné dans ce texte, verset 15, il avait été patient et ensuite il a reçu ce qui avait été promis, à savoir un fils, Isaac, son descendant. Mais nous devons de même encore patienter pour voir la pleine réalisation de notre salut. Selon le livre des Hébreux, il y a encore le repos ultime de Dieu dans lequel nous devons entrer. Il y a la cité céleste, la Jérusalem d'en haut qui nous attend, un monde dans lequel il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de maladie. Donc l'espérance que la foi en Christ nous donne est une espérance d'une bénédiction de la part de Dieu qui garantit pour toujours notre avenir, un avenir d'une gloire indescriptible avec le Dieu de toute gloire. Donc voici notre espérance que personne ne peut nous ôter. Deuxième question, pourquoi est-elle si efficace? Elle est si efficace, cette espérance, car elle ne dépend pas de nous. Verset 19, elle pénètre au-delà du voile. là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Si cette espérance pénètre au-delà du voile, cela fait référence, bien sûr, au voile qui se trouvait dans le tabernacle et ensuite dans le temple, qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Il fallait cette séparation, car le lieu très saint, c'était là où Dieu était présent avec son peuple. Et si Dieu lui-même y était, c'était dangereux pour l'homme d'y être aussi. Telle est la sainteté de Dieu que nous dit la Bible. Personne peut le voir et vivre. Le grand prêtre, lui, il y entrait dans ce lieu très saint une fois par an et pouvait y être uniquement parce qu'il répandait le sang des sacrifices sur l'autel qui s'y trouvait, le propitiatoire, là où Dieu est rendu propice. Et Jésus, lui, est le grand prêtre par excellence, comme nous dit ce verset 20. Il est d'un ordre supérieur de l'ordre de Melchizedek. Il suffit de lire le chapitre suivant pour mieux comprendre ce que cela signifie. Et son sacrifice, son offrande, n'était pas le sang d'un animal, mais c'était de son propre sang. Seul son sacrifice rend le Dieu trois fois saint, propice à notre égard. Et notre espérance pénètre au-delà du voile, nous permet alors de nous tenir dans la présence même de Dieu. Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Ça permet que nous entrons dans la présence de Dieu. Pas parce que nous sommes confiants en nous-mêmes de par mes résolutions de cette nouvelle année 2024. Et croyez, moi, j'en ai aussi des résolutions pour améliorer ma façon d'être chrétien. Mais ce n'est pas mes résolutions qui rendent Dieu propice à mon égard. C'est Jésus-Christ qui fait cela. Et cela, chers amis, c'est une merveille. Que le Dieu devant qui nous sommes tous redevables est le Dieu qui pourvoit tout pour nous en Christ, par sa grâce. Cela est une merveille. Alors, troisième question, comment savoir que cette espérance est sûre et certaine? Comment savoir qu'elle est sûre et certaine? Ce texte souligne que Dieu avait promis par deux choses immuables au verset 18. Ces deux choses immuables constituent un puissant encouragement pour nous. Les deux choses immuables sont immuables, pardon, car il est impossible que Dieu mente. Tel est son caractère saint, il ne ment pas, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et donc les deux choses sont lesquelles? La promesse elle-même et ensuite le serment. Suivons juste rapidement la logique du texte, si vous voulez. Verset 13. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jure par lui-même en disant, et ici il cite Genèse chapitre 22, « À coup sûr, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai. » Donc il y a la promesse de bénédiction elle-même dans Genèse 22, et ensuite, il y a le serment. Le texte de la Genèse dit « Je le jure par moi-même ». Verset 16 réfléchit, explique cela. En effet, les humains jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment, confirmant la parole, met un terme à toute contestation. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Un témoin qui doit comparaître devant le tribunal doit d'abord prêter serment devant le juge. Je jure, on dit en Belgique, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge, dans sa fonction de juge, est plus grand que le témoin. Il réclame donc de jurer devant le juge. Mais par définition, Dieu, il ne peut pas jurer parce qu'il est plus grand que lui, parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui. Il jure donc par lui-même. Mais pourquoi jure-t-il ? Il n'en a pas besoin, parce qu'il ne ment pas. Sa promesse suffit, n'est-ce pas ? Verset 17. En ce sens, Dieu décide à donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de ses décisions. Intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, la promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous, dont le refuge a été de nous attacher à l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance est sûre et certaine, car Dieu l'a confirmée. Deux fois. Vous savez, chers amis, lorsque quelqu'un capte pour du vrai la grandeur et la profondeur de l'espérance chrétienne, qui dépend pas de mes actes religieux, ni de mes nouvelles résolutions pour 2024, ni de mes sacrifices ou mes actes de bienveillance envers les autres, mais uniquement sur l'initiative et la bonté et la grâce de Dieu. La réaction est souvent comme celle-ci. « Mais tu sais, je ne suis pas digne, moi, d'un tel cadeau. Je ne suis pas digne d'une telle espérance. Dis-moi, Dieu, vraiment, ce que je dois faire alors cette année-ci pour mériter ce que tu me donnes. Le recevoir juste comme ça, c'est trop bon pour être vrai, non ? Non. Cette promesse est fiable, nous dit ce texte. Dieu l'a martelée par la promesse et le serment. Cette promesse arrive à son accomplissement dans le salut que Dieu nous offre en Christ. C'est ainsi que nous devenons fils d'Abraham, enfants de la promesse. Ça s'adresse à nous, c'est sûr. Et c'est certain, cela ne dépend pas de nous, mais de lui, de sa grâce. Alors ça nous mène à la dernière question. Comment peut-elle devenir la vôtre, cette ancre pour notre âme? D'abord, elle devient la nôtre lorsqu'on comprend que cette ancre n'est pas juste subjective à des chrétiens. Tu vois, ce genre de réaction, on peut avoir « Ah, je suis content pour vous, tu sais, que vous avez votre ancre. Mais moi, je ne suis pas vraiment aussi crédule que toi. Et donc, ce n'est pas une ancre pour moi, c'est votre ancre, ce n'est pas la mienne. » Non, ça ne marche pas comme ça. Cette espérance qui est notre ancre s'appuie sur des vérités objectives. Car le Dieu de l'éternité, le Dieu qui est là, est réellement, objectivement venu vers nous en Jésus-Christ. Il est réellement mort pour nos péchés sur une croix. Il est réellement ressuscité à la vie. Alléluia, Jésus vit. Ce n'est pas une déclaration subjective des chrétiens. Bien pour nous, c'est une déclaration objective. Il est ressuscité, il vit. Comment donc nous procurer, nous, de cette espérance? Que dit la fin du verset 18? Nous avons, de par les deux choses immuables, un puissant encouragement, nous dont le refuge a été de nous attacher à l'espérance qui nous était proposée. Nous devons nous attacher à cette espérance. Il faut saisir, si vous voulez, cette espérance. Acte 27, cet épisode où il y avait le naufrage du bateau dans lequel Paul se trouvait. Lorsque le bateau touche la terre ferme, tout près de la plage, l'officier qui tenait Paul prisonnier a ordonné, je cite le texte, à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est cela qui, ce qui s'est passé. Et tout le monde donc était sauvé. Mais cette image donc de s'agripper au morceau du bateau des planches pour arriver sur la terre est une image que nous pouvons employer pour comprendre ce que c'est de nous procurer, nous, de cette espérance. Nous devons nous agripper à Christ. On saisit ce qu'il a fait. Nous reconnaissons ainsi notre besoin d'être sauvés d'un jugement devant un Dieu qui est saint, qui nous attend sans que nous puissions avoir le salut en Christ. Nous nous accrochons à Jésus-Christ, nous le remercions pour le sacrifice parfait qu'il a pourvu au-delà du voile. Et nous restons accrochés à lui pour la vie. C'est ça notre souhait pour cette année 2024, pour chacun d'entre nous, chers amis. Vous pouvez vous accrocher à Jésus-Christ par la foi. Il ne s'agit pas d'une œuvre. Vous devez faire des choses. Il s'agit de dépendre de Christ pour que vous ayez une ancre solide et ferme pour votre âme, peu importe ce qui arrive tout au long de cette nouvelle année. Je pense que nous allons terminer dans un instant avec un chant, Coule à flot, source de grâce. Si vous prenez votre livret, vous allez voir que ce chant a 3 strophes. Et j'aimerais vous lire juste le 3e strophe qui exprime ce que c'est d'être accroché à Jésus-Christ, dépendant de cette grâce. Dépendant de cette grâce. C'est ça, le chrétien qui a cette ancre solide et ferme. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais de lui, de la grâce qui découle de la croix. Dépendant de cette grâce, chaque jour, je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prends à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends. C'est ça d'être accroché à Christ. Je suis à toi jusqu'au ciel, qu'il t'appartienne. Meilleur vœu, chers amis, pour 2024, que nous restions accrochés à Christ, qu'il soit pour nous notre ancre solide et ferme. Je pense que nous allons nous mettre debout directement et nous allons chanter « Coule à flot, source de grâce ».